VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 GMT, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 mars 2017. Morgane Guirec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, réparation monétaire pour des victimes de guerre en RDC, création en Gambie d'une commission vérité et réconciliation sur des crimes présumés de l'ancien régime de Yahya Jammeh. En Côte d'Ivoire, les avocats commis d'office pour défendre Simone Gbagbo vont bouder lundi la phase finale du procès. En Égypte, Hosni Moubarak a été libéré aujourd'hui après 6 ans en captivité. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Réparation monétaire pour des victimes de crimes de guerre en République démocratique du Congo. Les juges de la Cour pénale internationale allouent pour la première fois $250 symboliques à chacune des 297 victimes d'un massacre dans un village en 2003. Les détails avec Arzuma Kombori.
Selon le juge Marc Perrin de Brichambaut, l'objectif de cet acte symbolique est de soulager les préjudices subis par les victimes d'une manière significative. Le Congolais Germain Katanga, déjà condamné en 2014 à 12 années de prison pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, devra personnellement réparer le préjudice physique, matériel et psychologique estimé à plus de $3,75 millions en payant $1 million. C'est par liaison vidéo que M. Katanga a suivi l'audience à Kinshasa depuis sa prison de Makala. Quant au préjudice psychologique engendré par la perte d'un être cher, la valeur monétaire a été fixée à $3,752,620, soit un montant 4 fois inférieur à celui déterminé par les victimes. De premières compensations symboliques avaient été attribuées dans une autre affaire, celle de Thomas Lubanga, condamné en 2012 à 14 ans d'emprisonnement pour enrôlement d'enfants soldats. Une décision finale se fait toujours attendre sur des réparations monétaires.
L'otage français enlevé jeudi dans l'est du Tchad se trouve au Soudan voisin, a déclaré aujourd'hui à l'AFP le ministre tchadien de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Le français enlevé travaillait pour une compagnie minière. Il a été kidnappé dans une localité située à 50 km de Gosbeida, à 200 km au sud d'Abéché. Mimi Ould Baba Ould Cheikh et Ibrahim Ould Mohamed, interpellés au Mali, sont d'anciens pensionnaires du site de réfugiés de Mentao à Djibo. Selon le colonel Serge-Alain Ouedraogo, chef d'état-major général adjoint de la gendarmerie burkinabé, Mimi Ould Baba Ould Cheikh est présenté comme l'un des cerveaux de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui avait fait 19 morts en mars 2016. Il était aussi le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou, qui a fait 30 morts en janvier 2016. En Sierra Leone, un étudiant a été tué au cours d'une manifestation violemment dispersée hier à N'Djala. Les étudiants réclamaient la reprise des cours. Et des manifestations ont également eu lieu à Freetown, à Kenema et à Makeni. Des enseignants de l'université de N'Djala sont en grève depuis octobre pour réclamer le paiement de salaires et de pensions de retraite. La Gambie annonce la création d'une commission vérité et réconciliation chargée d'enquêter sur des présumés crimes commis par l'ancien régime de Yahya Jammeh. Cette décision répond aux demandes de familles de victimes et à des organisations de défense des droits de l'homme. Abdourahmane Dia.
L'ancien président Yahya Jammeh a négocié sa sortie grâce aux chefs d'État guinéens et mauritaniens qui l'ont aidé à partir en exil en Guinée équatoriale avec tous ses biens. Mais l'ancien numéro 1 gambien qui a dirigé le pays pendant 22 ans n'est pas sorti de l'auberge. Le ministre de la Justice, Aboubakar Tambédou, a promis que les premières audiences publiques auront lieu avant la fin de l'année. L'ancien chef des services de renseignement, Yankuba Badji, et l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, ont déjà été arrêtés. En plus des crimes de sang présumés, le ministre gambien de la Justice a indiqué que la gestion financière de l'ancien régime sera aussi examinée. Yahya Jammeh est accusé d'avoir pillé les caisses de l'État avant de s'exiler. L'annonce de la création de cette commission intervient alors que l'actuel président Adama Barrow avait promis que son gouvernement ne se livrerait pas à une chasse aux sorcières.
Les avocats commis d'office de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, n'assisteront pas à la phase finale du procès prévu à partir de lundi, ont-ils annoncé, réclamant une nouvelle fois une reprise totale du procès. Une campagne de vaccination synchronisée contre la poliomyélite dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale débutera demain, samedi. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 190 000 vaccinateurs dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale vont vacciner plus de 116 millions d'enfants pour faire disparaître le dernier bastion de la poliomyélite sur le continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hosni Moubarak a été libéré aujourd'hui après 6 ans en captivité. Maître absolu de l'Égypte durant 3 décennies, il a été renversé en 2011 et condamné à la prison à perpétuité pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire. Le point avec Saloua Jafari.
Hosni Moubarak, fils de l'armée, scandait un groupe de supporters à sa sortie de l'hôpital militaire de Ma'adi, où il a passé le plus clair de ses années de captivité. 88 ans, l'ex-raïs a pris la direction du quartier d'Héliopolis dans la banlieue du Caire, où il possède une résidence. La cour de cassation l'avait définitivement acquitté au début du mois des accusations d'implication dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Moubarak, après 30 ans de règne sans partage, a été emporté dans le tumulte du printemps arabe le 11 février 2011. Il a été condamné à la prison à vie en juin 2012. Mais la justice avait ordonné un nouveau procès. En novembre 2014, un autre tribunal a finalement abandonné les poursuites, blanchissant ainsi Moubarak. Mais le parquet avait introduit un recours en cassation.
Immigration vers l'Europe, la cour d'appel de Tripoli a suspendu l'accord entre la Libye et l'Italie sur l'immigration en attendant de statuer sur le sujet. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice du gouvernement d'Union nationale. Le GNA a signé avec l'Italie un mémorandum d'accord visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye, pays d'Afrique du Nord, d'où partent chaque année des milliers de migrants vers l'Italie. Et la justice espagnole a mis en examen aujourd'hui le capitaine d'un navire russe et son second pour homicide involontaire après la mort de 2 pêcheurs, marocains et sénégalais, dont ils avaient percuté l'embarcation près de Barcelone. Ils sont poursuivis pour délit d'imprudence ayant entraîné la mort, a annoncé la cour d'appel de Catalogne. Un sentiment général de frustration mine une partie de la jeunesse de 5 pays arabes méditerranéens. Telles sont les conclusions d'une enquête menée auprès de 10 000 jeunes marocains, algériens, tunisiens, égyptiens et libanais, dont 1 sur 5 veut immigrer, dont les plus diplômés. Vote à haut risque ce vendredi pour Donald Trump, qui joue pour la première fois sa réputation de négociateur et sa crédibilité. Le Congrès américain doit voter la réforme du système de santé. Un groupe d'élus républicains s'oppose toujours à ce projet de loi. Claire Morin-Gibourg.
La Chambre des représentants vote cet après-midi pour remplacer ce qui est surnommé Obamacare, le système de santé mis en place il y a 7 ans. Ce matin à Washington, on ignorait toujours si le texte allait recueillir une majorité des voix ou si Donald Trump allait subir une cinglante défaite. L'opposition démocrate est radicalement contre et une trentaine de républicains modérés et conservateurs sont contre ce texte. Le président américain, après d'innombrables réunions, a décidé hier soir de mettre fin aux négociations. Il a lancé un ultimatum à son propre camp en disant « approuver la réforme ou laisser Obamacare en place ». Donald Trump parie sur le fait que les républicains n'oseront pas faire échouer la première grande loi de son mandat. Ses détracteurs estiment que le président sous-estime l'impact de la réforme, car 14 millions de personnes risquent de perdre leur assurance santé dès l'année prochaine. Selon un sondage Quinnipiac, 56% des Américains s'opposent au plan républicain, 17% l'approuvent et 26% restent indécis.
Du nouveau concernant l'attentat commis à Londres mercredi, la police britannique a procédé à 2 nouvelles arrestations. Au total, 9 personnes sont en garde à vue. La police tente également de déterminer si le tueur a agi seul. Identifié comme Khalid Massoud, l'auteur britannique est né Adrian Russell Adjao. Avec 4 morts, c'est l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis 12 ans. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. Et en Belgique, le Tunisien de 39 ans arrêté hier après avoir mis en danger avec sa voiture des piétons dans la ville belge d'Anvers a été inculpé de tentative d'assassinat à caractère terroriste, même si les enquêteurs restent prudents sur ses motivations. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
Le déficit commercial du Burundi a diminué de 10,4% l'année dernière par rapport à 2015, en partie grâce à la baisse des importations de carburant et de matériels électriques. C'est la banque centrale du pays qui le dit. Le Burundi, dont l'économie repose sur les exportations de café et de thé, souffre d'un déficit commercial chronique, une instabilité économique exacerbée par la réduction de l'aide internationale en raison de la crise déclenchée par le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une première au Kenya, le pays a émis aujourd'hui un emprunt obligataire par le truchement, tenez-vous bien, du téléphone portable. La banque centrale veut ainsi mettre les titres du trésor à la portée d'un plus grand nombre de Kenyans, dont 23 millions possèdent un smartphone. Pour ce lancement, le gouvernement projette de lever 150 millions de shillings pour aider à financer des projets publics. De vastes chantiers en perspective au Nigeria. Le gouvernement vient d'approuver des projets d'infrastructure à travers le pays à hauteur de 256 millions de dollars. Il s'agit notamment de projets routiers, ferroviaires et énergétiques.
Allez, plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Série de matchs amicaux en football en Afrique.
Oui, alors que 6 équipes disputent le tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN 2019, d'autres préparent la phase de groupe qui débutera en juin, ainsi que la suite des qualifications pour le Mondial 2018. Hier, match nul un partout entre le Kenya et l'Ouganda à Machakos, au sud de Nairobi. Le Sénégal a été contraint au match nul un partout face au Nigeria. C'était à Londres. Le but des Sénégalais a été inscrit par Moussasso, le Nigeria a répliqué grâce à Iheanacho. Ce vendredi, en match amical, les éléphants ivoiriens se sont imposés de belle manière à Krasnodar face aux Russes. 2-0, Kodja Ezaha, buteur ivoirien. La Libye et le Togo ont fait match nul, 0-0 à Alexandrie. La Mauritanie et le Bénin à la mi-temps font match nul, 0-0. 1-0, la victoire pour le moment du Cameroun grâce à un but de Vincent Aboubakar. Match à suivre également à Marrakech entre le Maroc et le Burkina Faso et au Havre, la Guinée face au Gabon. Demain, Tanzanie, Botswana, Dar es Salaam, Afrique du Sud, Guinée-Bissau à Durban, le choc lusophone Mozambique-Angola à Maputo, et puis dimanche le Kenya face à la RDC et le Zimbabwe face à la Zambie.
En Amérique du Sud, match de feu la nuit dernière entre le Brésil et l'Uruguay.
Oui, le Brésil a fait un grand pas vers la qualification pour ce Mondial 2018 avec sa démonstration à Montevideo, 4-1 depuis la nomination de Tite au poste de sélectionneur en juin 2016. La Seleção est sans rival, elle a signé au stade du centenaire de Montevideo sa 7e victoire consécutive. L'Argentine est l'autre grand bénéficiaire de cette 13e journée. Elle n'a pourtant pas fait forte impression contre le Chili, mais Lionel Messi a assuré l'essentiel avec un pénalty dès la 16e minute.
Le président de la FIFA salue l'élection d'Armad à la tête de la Confédération africaine de football.
Et oui, Gianni Infantino a jugé que l'élection du malgache Armad à la présidence de la CAF symbolisait, je cite, un vote de changement après près de 30 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou. L'Afrique n'est pas un continent facile à diriger en ce qui concerne le football, mais les Africains ont une grande passion pour ce sport et ont souhaité un nouveau leader à une majorité significative, a poursuivi le patron de la plus haute instance du football mondial, Gianni Infantino, qui a cependant reconnu les progrès effectués sous les mandats d'Issa Hayatou.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Spurs de San Antonio ont aligné une 3e victoire consécutive en battant Memphis 97-90. Dans la course au play-off qui s'annonce indécise jusqu'au bout, Miami a connu un coup d'arrêt avec une nette défaite à domicile face à Toronto, 84-101. De son côté, Dallas a arraché la victoire face aux Clippers, 97-95.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guerrier, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Le Togo dans son processus de réconciliation, annoncé ce 24 mars à Lomé, la phase de réparation des victimes des violences à caractère politique et des violations des droits de l'homme dans le pays entre 58 et 2005. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
De toutes les violences à caractère politique qui ont émaillé l'histoire du Togo de 1958 à 2005, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a recensé 22 415 victimes, dont 7 075, soit 31,56% pour la seule année de 2005. Les souvenirs demeurent encore vivaces. Cette victime, qui réside à Tapamé, à 157 km au nord de Lomé, a perdu lors de la période électorale de 2003 sa femme et ses deux enfants. Il se dit prêt à pardonner, mais pas à oublier. Témoignage.
Nous étions à la maison autour de 23 heures quand une Jeep atterrit et des gens habillés étaient sortis, habillés comme des militaires, mais à visage couvert. Ils ont violé ma femme. J'ai voulu réagir. Mes enfants aussi, bon, ils les ont tués. Moi-même, bon, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la fosse. J'ai perdu ma femme et mes deux enfants. Je peux pardonner, mais ce séquel-là, c'est difficile à oublier.
Pour panser les blessures et mettre en route un processus de réconciliation durable, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale Ashkoun va procéder aux réparations des victimes. La première phase de ces réparations ne concernera que 2465 victimes de 2005 pour une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Awanana Daboya, présidente du Ashkoun.
Il y a des montants de préjudice qui n'atteignent pas 1 million. Donc ça va de 200 jusqu'à 800 et quelques mille. Donc ces victimes-là, nous les prenons en compte. C'est uniquement ceux-là. Mais surtout, il y a les 126 qui attendent, qui ont besoin d'aller à l'hôpital, d'être pris en charge, qui ont besoin de prothèses. Il y a parmi eux des enfants de victimes qui attendent, qui ont eu leur scolarité arrêtée.
L'occasion est belle pour le gouvernement de réaffirmer son engagement pour la réconciliation au Togo, comme Isselom Klassou, premier ministre togolais.
Le gouvernement a fait du programme de réparation un impératif.
Pour ces citoyens togolais, il faut aller au-delà des discours réconciliateurs et des réparations. Ils estiment que des actes, même symboliques, sont indispensables.
La réparation ne se limite pas aux compensations financières ou matérielles. La réparation, c'est aussi l'engagement des autorités publiques de faire en sorte que la sécurité des uns et des autres soit désormais garantie.
La réparation est un passage obligé pour le Togo. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Les forces maritimes de 31 pays du Golfe de Guinée, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis ont commencé hier des manœuvres maritimes dans le Golfe de Guinée. Selon l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire, c'est notamment pour lutter contre la piraterie. Tatiana Mousseau a joint Barthélémy Blade, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Abidjan.
L'opération Obagame Express, son but, c'est d'aider les pays africains à sécuriser leur domaine maritime contre les incidents de sûreté, notamment la piraterie, la pêche illégale.
Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette piraterie?
Même si on vient de connaître un cas de piraterie dans le golfe d'Aden, du moins depuis 2012, on n'avait pas connu d'attaque là-bas. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une attaque réelle en Somalie. Mais effectivement, le golfe de Guinée est beaucoup plus en avance négativement, bien sûr, par rapport à la piraterie. Et les aspects négatifs, effectivement, ça joue sur l'économie. Parce que des ports où il y a les pirates, les navires n'y vont pas. Ou bien si les navires y partent, les frais, c'est-à-dire le coût du transport augmente parce que les assurances augmentent. Et donc, c'est vraiment négatif. Il n'y a pas que la piraterie, il y a la pêche illégale, et les autres trafics. trafics qui se font en mer, puisque les zones ne sont pas gardées.
Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques, les gouvernements africains concernés dans cette zone géographique sont pleinement conscients? Est-ce qu'ils ont les moyens de doter notamment la défense et les éléments compétents de ce qu'il faudrait techniquement pour pouvoir faire face?
Bon, une chose est d'être conscient, une autre est d'avoir les moyens pour qu'effectivement le travail soit fait pour que ces pirates et autres bandits en mer puissent être repoussés ou même que ce fléau soit totalement éradiqué. Bon, ça commence à aller. Par exemple, en Côte d'Ivoire où je suis, il y a quelques patrouilleurs maintenant. C'est ce matin même au centre du Bagamé Express et je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire a mis à la disposition de l'opération cet engin naval, ce qui est important et chaque pays essaie de faire des efforts. Il y a cette coopération qu'on commence à voir, notamment au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Afrique centrale également, avec 5 zones. Les pays ont établi 5 zones et ces 5 zones essayent de travailler ensemble. Mais il faut dire que les choses ne vont pas si vite, aussi vite qu'on devait le penser, aussi vite qu'on devait le souhaiter, étant donné que le fléau, lui, avance. Donc oui, je pense qu'il y a de la volonté, mais les choses vont quand même assez lentement.
Barthélémy Blédé, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Des associations béninoises et françaises ont relancé le débat sur la restitution d'œuvres d'art inestimables subtilisées pendant la colonisation du royaume de Dahomey en lançant une pétition accompagnée d'une lettre ouverte au président Hollande pour appuyer le Bénin. Pour plus d'explications, Anastasie Tudièche a joint Louis-Georges Tine, membre du CRAN, le conseil représentatif des associations noires, signataire de la lettre au président Hollande.
Depuis 3 ans, le CRAN travaille sur cette question de la restitution. Nous avons été suivis, heureusement, par le président Talon, le président du Bénin, qui a fait une demande officielle de restitution. Or, ne voilà-t-il pas que la France refuse officiellement, ou plutôt le Quai d'Orsay, dit non à cette restitution, raison pour laquelle nous avons essayé de mobiliser les personnalités de France et du Bénin pour protester contre cette décision inique. Nous disons qu'on ne peut pas fonder le dialogue interculturel sur le pillage interculturel.
Si la demande d'un président, tout ce qu'il y a de plus officiel, n'a pas abouti, qu'est-ce qui vous fait penser que celle d'une pétition donnera plus de fruits ?
Nous pensons que, étant sur place en France, nous avons des relais que le gouvernement béninois ne veut pas tout à fait avoir étant là où il est. Nous sommes complémentaires. Le Bénin a plus de pouvoir et plus de légitimité. Mais nous avons peut-être en France plus de réseaux. Nous connaissons bien les députés. Nous connaissons le droit français. Et nous sommes complémentaires. Nous travaillons ensemble.
Est-ce qu'il existe au Bénin des lieux pour accueillir ces objets?
Oui, il y a des lieux qui existent et d'autres qui sont en construction. Le président Talon a fait construire, il est en train de faire construire un musée du Vaudou et une aile de ce bâtiment est prévue pour la restitution des trésors royaux dont nous parlons. Par ailleurs, la Fondation Zinsou est également disposée à financer la restauration du musée d'Abomey. Donc les lieux sont là et nous disons qu'on ne peut pas aujourd'hui priver les Africains de leur patrimoine naturel. Aminata Traoré, la ministre de la Culture du Mali, disait elle-même que 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique, au British Museum, à Tervuren en Belgique, en France, au musée du Quai Branly. C'est évidemment inacceptable. Quand M. Sarkozy disait « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire », il aurait dû dire « on a volé l'histoire de l'homme africain ». C'est plutôt ça la réalité. Donc si aujourd'hui on veut que les Africains et les enfants, les jeunes, puissent connaître leur passé, leur histoire, leur patrimoine, il faut bien qu'ils les aient sous la main. On ne peut pas leur demander à tous de partir, prendre l'avion, demander un visa pour aller payer quelque chose de Cabranly. En fait, c'est du vol. C'est du vol colonial et je pense que M. Hollande ne peut pas décemment partir comme un voleur. On veut réussir sous François Hollande et si on échoue, on continuera, ça c'est certain. Je pense d'ailleurs qu'on gagnera, la question c'est quand, le plus tôt et le mieux.
Voilà, c'était Louis-Georges Thine, membre du Conseil représentatif des associations noires.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épidémie de paludisme au Burundi.
Depuis le début de l'année, près de 2 millions de personnes ont été infectées et environ 700 personnes ont déjà perdu la vie selon les autorités sanitaires.
Pour nous aider à comprendre les raisons de ce désastre sanitaire, nous recevrons comme invité M. Mbonerane Albert. Il est président de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi.
Nous écouterons le témoignage du Dr Dionys Nizigiyimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au ministère burundais de la Santé. Il nous dira ce qui est fait pour combattre l'épidémie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
24 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. L'OMS en a fait une priorité pour un éclairage sur cette maladie en Afrique où près de 2 millions de cas sont répertoriés annuellement. Nathalie Barge a joint à Abidjan le docteur Tanou Sidiki.
La tuberculose est considérée comme une maladie d'hygiène. Quand vous manquez d'hygiène et que vous êtes dans un milieu où il y a des tuberculeux, vous prenez facilement la tuberculose. Alors pour l'éviter, c'est d'isoler les gens qui sont porteurs. Ou bien quand on doit être à côté d'eux, obligatoirement, il faut que ces personnes se protègent lorsqu'elles toussent et qu'elles évitent de cracher dans tous les sens.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas de tuberculose en Côte d'Ivoire ?
Ah oui, avec l'avènement de la maladie VIH, il y a une flambée en ce qui concerne la tuberculose. Quand quelqu'un est porteur du virus du sida, il est faible sur le plan immunitaire, donc facilement, il attrape cette maladie.
Alors, il y a une forte prévalence en Afrique du Sud et au Nigeria. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Je pense qu'en Afrique du Sud, il y a une très forte prévalence du VIH. Donc, quand les gens sont immunodéprimés, facilement, ils font le lit de la tuberculose.
Mais docteur, comment éradiquer la tuberculose ?
Véritable problème de santé publique. Il faut que l'État prenne à bras le corps le problème de la tuberculose, qu'il fasse beaucoup de campagnes de prévention. Le BCG qui se donnait à tous les enfants à l'époque, il faut le rendre obligatoire celui-là. Et il faut faire de l'éducation sanitaire. Et ensuite, les malades qui sont touchés, il faut réellement les prendre en charge aussi. Bon, ça, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on le fait très bien. Les malades sont soignés gratuitement. Mais ce qu'il faut craindre aujourd'hui à la tuberculose, c'est l'apparition des formes résistantes. Ça commence à venir. Est-ce que c'est dû au fait que les malades sont insuffisamment soignés ? Est-ce que c'est le bacille qui a muté pour devenir plus complexe ? Est-ce que c'est les médicaments qui sont devenus légers ? Je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de résistance au niveau de la tuberculose de plus en plus. Et quand ces cas apparaissent, il n'y a pas beaucoup d'États qui arrivent à faire face à ces formes résistantes.
Le docteur Tanou Sidiki était joint à Abidjan.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Ariste Bouchab, Bifor, Yassara, Guima Georges, Bossale, Nanae, Sabola, Yamawa, et les Corses.
Voilà, on termine sur Fali Poupa, Tcho. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Lionel Gaïma, Souleymane Tarawale à la console, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.